Le 6 décembre 2024, à la demande de Fréquence Mistral, je suis allée au théâtre du Briançonnais pour couvrir un spectacle et une conférence sur Claude Maquet. Je le connaissais pas trop, à vrai dire. Sa page Wikipédia m'apprend qu'il est un romancier et poète jamaïcain, naturalisé américain, né en 1890 et mort en 1948. À part ça, il me reste tout à apprendre sur lui. En cheminant vers le théâtre, je réalise pourquoi le nom de Maquet m'est familier. Il faut dire que depuis que le reportage m'a été attribué, le nom tourne dans ma tête. Maquet, Maquet, ça me dit quelque chose, je comprends pas. Maquet, d'où ça vient? En fait, c'était l'appellation de ma rue quand j'habitais à Québec. Le Maquet de Québec, c'était un médecin et pas un poète, mais la coïncidence m'a bien fait rire. Une fois arrivé, dans un bureau inoccupé au fond du théâtre, je rencontre Renaud Bouc, éditeur et cofondateur de la maison Héliotropisme, qui a publié 3 récits de Claude Maquet, et Mathieu Verdeil, réalisateur du documentaire Claude Maquet d'Harlem et Marseille, et co-auteur du spectacle Quai, l'être un poète disparu. Pour commencer, je demande tout simplement à Renaud de me présenter Claude Maquet.
Alors, mais Claude Maquet, c'est un écrivain jamaïcain, souvent considéré dans un corpus nord-américain, voilà. Mais il a cette particularité d'avoir voyagé en Europe et de s'être établi notamment quelques années à Marseille, sur le Vieux-Port. Et c'est un écrivain plutôt libre, libre penseur, un peu un vagabond comme ça, avec le but ultime de chroniquer la vie des communautés noires qu'il va rencontrer en Europe, c'est-à-dire dans un monde occidental blanc, colonisateur. Et voilà, il va faire ça d'une manière tout à fait nouvelle, puisque il intervient donc dans les années 20 surtout. Il écrit beaucoup dans les années 20, à une époque où la négritude n'existe pas encore, elle en est à ses balbutiements.
Mathieu complétera ce portrait de Maquet.
Pour moi, Claude Maquet, c'est avant tout un aventurier, un grand voyageur, un vagabond, comme on dit souvent, un vagabond céleste, pas un clochard céleste. Ceci dit, il a vécu aussi avec les clochards et les vagabonds et les sans-papiers, mais il a aussi vécu avec les gens de la haute société et l'intelligentsia du début du siècle et des avant-gardes artistiques et politiques, de Charlie Chaplin à Isadora Duncan, de Paul Robeson à Trotsky, parce qu'il a même fréquenté Trotsky, avec qui il échange et qui fait paraître ses échanges en couverture de la Pravda en 1923. Donc c'est assez extraordinaire. C'est un homme dont on ne soupçonne pas la diversité des possibilités, c'est-à-dire qu'il, petit Jamaïcain, il fait presque le tour du monde, ou en tout cas le tour de l'Europe et au Maroc. Il croit tous les milieux et il n'a aucune barrière, aucune frontière. Donc oui, pour moi, c'est un homme extraordinaire, un grand voyageur, et c'est ça qui m'a plu chez lui.
Ah, c'est compliqué, mais c'est mon copain maintenant. On s'est fréquenté quelques temps et je suis très heureux de porter sa voix, ses poèmes et son regard sur le monde.
Le copain de Maquet, c'est Lamine Diane, musicien, scénariste, qui a coécrit avec Mathieu Verdeil le spectacle Quai, l'être un poète disparu. Il m'a gentiment accordé un peu de temps entre la fin des balances qui ont duré toute l'après-midi et la préparation de la conférence débutant dans 30 minutes. Pour ne pas le déranger plus longtemps, j'ai fait l'interview là, attablé au piano bar.
On s'est fréquenté quelques temps et je suis très heureux de porter sa voix, ses poèmes et son regard sur le monde. Parce que je trouve que c'est un regard qui cherche pas à embaucher, qui cherche pas à nous faire avoir des grosses étiquettes ni des grandes idées politiques. Et pour autant, c'est un regard qui est très acéré, donc qui tranche un peu dans le vif de ce que la société de son époque, mais encore aujourd'hui, parce qu'on avait d'inhumain, quoi. Hein,
et... Reviendrons sur la question de l'actualité et surtout de qu'est-ce que Maquet a de contemporain. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, et pour rester dans cette discussion-là, c'est de savoir ce que représente Claude Maquet pour ces 3 hommes. Lamine m'a parlé d'un copain, Mathieu, d'un aventurier globetrotter. Mais Renaud, il ne m'a pas dit grand-chose, alors je lui pose la question.
Il y a plein de choses qui sont très séduisantes dans les récits de Mackay. Il y a effectivement cette notion d'aventure. Hein. Il est toujours en marge de quelque chose. Il fait toujours un pas de côté vis-à-vis d'un mouvement. Il est toujours à la gauche, hein, même d'un mouvement comme la Renaissance de Harlem à New York. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il a su revendiquer une essence universel, en se concentrant sur des petits microcosmes, sur des quartiers. Et c'est notamment le cas de Marseille. Hein. Il n'a pas parlé de Marseille dans sa globalité, il a parlé d'un quartier, précisément même un petit village dans le quartier, hein, qu'on appelait le quartier réservé à Marseille, un quartier réservé à la prostitution, qui était très très peu mentionné dans les récits historiographiques et que lui a remis en avant. Il est presque l'un des seuls, d'ailleurs, à avoir chroniqué cette vie des bas-fonds à Marseille. Donc il a un côté aussi ethnographe, journaliste. Voilà, c'est un peu ça, quelque part, moi, c'est sa volubilité, sa capacité à englober plein de styles littéraires, la poésie, le récit, le journalisme, qui fait de lui un grand écrivain.
Alors, je rebondirai sur le côté qui dresse le portrait d'un petit quartier de Marseille en 1925, le quartier réservé. Et dans ce quartier, finalement, il réunit le tout monde. Et finalement, pour reprendre une idée chère à Bob Marley, qui est un Jamaïcain également comme lui, qui lui parlait de Trenchtown, qui était un des ghettos de Kingston. Voilà, quand on raconte une petite histoire à Trenchtown ou dans le quartier réservé, on peut parler d'universel en fait. Et dans Banjo, il y a cette universalité des personnages qui viennent du monde entier. Il y a déjà tous les Noirs de la diaspora africaine, qu'elles soient justement d'Afrique, mais aussi des Antilles ou des États-Unis, et qui rencontrent l'universalité parce que Marseille est un grand port et qu'il y a des gens du monde entier, et vraiment du monde entier, surtout en ces années 20 où Marseille est encore le grand port, la porte de l'Orient, la porte des colonies, le grand port. Donc tout le monde se côtoie et Mackay est là et il va le dresser dans son livre Banjo, vraiment un portrait truculent de la ville, mais aussi de cette bande de Noirs qui vont faire de la musique ensemble, créer un groupe de jazz. C'est ça la trame de Banjo. Il crée un groupe et ils discutent, ils font la fête. Et dans leur discussion, on sent toutes les réflexions de l'époque et notamment les réflexions du milieu noir, en fait, de l'internationalisme noir qui est en train de se mettre en place.
Ils n'avaient rencontré, vivant ensemble, autant de Noirs de variété aussi pittoresque. Nègres parlant l'une des langues civilisées, nègres parlant tous les dialectes africains, nègres à la peau noire, brune ou jaune. À croire que chaque pays du monde où vivaient des Noirs avait laissé des représentants de cette race dérivés jusqu'à Marseille. Une vaste armée vagabonde de nègres de brousse s'efforçant de glaner leur subsistance sur le macadam du grand port provençal.
J'ai lu Banjo pour commencer. Donc, c'est Banjo, c'est un roman qui se passe à Marseille il y a 100 ans. Et il m'a fait retomber amoureux de ma ville, en fait. Parce qu'il parle d'une ville qui existe encore. Même si c'était il y a 100 ans, il y a vraiment beaucoup de choses dont il parle, sur la façon dont les communautés se mélangent, dont les accents se comprennent, dans ce vivre ensemble, dans cette paix de... Bon, c'est un petit peu galvaudé maintenant, mais ville-monde, ça correspond quand même très très bien à Marseille, dans le sens où c'est une ville où on voit toutes les beautés, toutes les laideurs du monde, en fait. On n'est pas à l'abri dans un... Il y a moins cette dimension castée qu'il y a beaucoup dans d'autres villes de France, par exemple.
Dans son spectacle, Lamine compara même les villes françaises à des quiches lorraines, blanches et riches à l'intérieur, mais avaient une croûte brune et dure à l'extérieur. Marseille, ville-monde, sera la maison de Claude Mackay pendant 4 ans, où il écrira « Romance in Marseille » et surtout « Banjo », dont vous avez entendu un extrait lu par Raphaël Kraft. Je suis fascinée, je l'avoue. Par Claude Mackay, bien sûr, mais surtout par la manière dont Lamine, Renaud et Mathieu me parlent de lui, avec passion, animation, admiration. Pourquoi ? Pourquoi cet écrivain ayant vécu au XXe siècle rentre tant en écho avec eux ?
Notamment la question des migrations dans un petit port comme Marseille ou une ville comme Paris. Qu'est-ce que ça signifie d'être noir à cette époque? Qu'est-ce que ça signifie la migration dans un monde très, très colonial? Mais également, il peut mettre en avant dans ses romans un personnage qui souffre d'un handicap et le mettre au premier rang. Ou parler, par exemple, de couples gays ou lesbiens dans un espace réduit, chose qui, à mon avis, était très, très peu diffusée à l'époque.
On peut parler notamment de son poème « If We Must Die », qui est son poème le plus fort, le plus connu d'ailleurs, qui a laissé le plus de traces, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, qu'en Russie et qu'en France. Et ce poème, qui lui-même, il l'a voulu universel, alors qu'au début, c'était une réponse aux émeutes interraciales aux États-Unis, le Red Summer de 1919. Il écrit ce poème en réaction à ces lynchages et à cette guerre civile presque qui oppose les Noirs et les Blancs. Et ce poème, il a traversé le siècle, parce qu'il y a un peu plus d'un an qu'il a été écrit. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être scandé dans des manifestations de Black Lives Matter, par exemple. Et donc, c'est un poème qui résonne. Et donc ça, c'est un exemple de sa pensée qui n'a pas pris une ride.
Je vous propose d'écouter « If We Must Die », le poème de Claude Maquet. Et la voix que vous allez entendre au début de l'extrait, c'est justement la sienne, celle de Claude Maquet, dans un des rares enregistrements parvenus jusqu'à nos jours. Et avant d'oublier, toutes les musiques de cette émission, ainsi que les prochaines lectures, et la deuxième voix que vous allez entendre dans cet extrait, sont issues du spectacle Quai, Lettre à un poète disparu, et sont celles de Lamine.
If we must die, let it not be like hogs, hunted and penned in an inglorious park, while round us bark the mad and hungry dogs, making their mock at our cursed lot.
Maquis est un écrivain avec une langue vraiment formidable et exemplaire à tout type parce qu'elle est vraiment hybride. Il est né dans les Caraïbes, en Jamaïque, qui est un lieu de circulation de beaucoup de langues. Il a ensuite vécu à New York où il a un peu englobé tous les codes du Black English. Et puis après, il se situe en Europe. Donc il y a par nature presque, je dirais, quelque chose d'hybride dans sa langue. Il essaie d'assimiler beaucoup de langages. C'est une langue qui est très syncopée, assez musicale. Il faut rappeler qu'il est poète et il se considère comme poète avant tout. Donc la musique pour lui tient lieu de sanctuaire et sa langue peut se rapprocher parfois des morceaux de musique qu'il décrit. Ça peut être des dialogues vraiment dignes d'un match de boxe ou des descriptions comme ça foisonnantes.
Chair noire, chauffée par le vin de la vie, peau noire qui picote, la musique de la vie, l'amour et le sens profond de la vie, odeur forte de corps noir plein de santé, dans un endroit confiné qui répand de la sueur et des ondes de chaleur. Oh, j'ai perdu, secouez-moi ça, au rythme de la puissante musique de la vie, jouez pour la ronde primitive de la vie. rythme brusque de la chair sombre de la vie, flux vigoureux des courants profonds que l'on force à entrer dans des canaux sans profondeur. Jouez-moi ça, l'un des mille mouvements de la vie qui coule éternellement. Secouez-moi ça, comme un défi lancé à l'ombre de la mort. Main traîtresse de la mort assassine, vous aguez dans les venelles sinistres où les ombres de la vie dansent pourtant. Là-bas la mort, ici la vie. Secouez-moi la mort et oubliez dans une grande orgie de danse son commerce et ses dessins, sa présence qui vous rend. Tuez la mort de nos jours en dansant, tuez la mort de nos mœurs en secouant ça. Jazz de la jungle, ondulation de l'Orient, pas mesuré de la civilisation, secouez-moi ça. Douce danse de la joie primitive, plaisir pervers, prostitution des manières, variation multicolore du rythme, sauvage, barbare, affiné, rythme éternel du mystère, de la magie, de la splendeur, danse divine de la vie, oh, j'ai.
Alors oui, on en a plusieurs et je pense que la première archive, c'est Banjo. Hein. Banjo est presque un document historiographique, même s'il faut faire attention et prendre de la distance hein, vis-à-vis de la fiction. Mais en tout cas, ça nous parle de son intérêt hein, pour un style musical, le jazz, qui à cette époque commence à arriver en Europe. Hein. On a comme ça une diffusion assez rapide du jazz avec l'arrivée des soldats noirs américains et antillais en Europe pendant la Première Guerre mondiale. On a l'orchestre de James Reese Europe et ses Hal Fighters qui commence à être connu. Il y a la Revue Nègre, il y a beaucoup de jazz qui va circuler. Et lui, Claude McKay, va essayer de rendre compte de toutes ces musiques qu'il va voir, observer. Hein, dans un monde qui n'est pas encore marqué par le jazz. Donc il y a ça, et puis il y a un attrait presque naturel pour la chose versifiée, pour le vers poétique. C'est quelqu'un qui écrit dans un anglais parfois, souvent même remarquable, hein, un anglais élisabétain. Il adore la rime, le sonnet, hein, qui est sa forme d'expression préférée en poésie. Et donc bah, la musique, pour lui, est une sorte d'amulette hein, qu'il va toujours mettre au centre de son œuvre. Dans ses romans, on a parfois des musiques qu'il invente ou alors des musiques qui sont citées, des paroles. Hein. Voilà, donc c'est ce qui fait que sa langue est si musicale, enjouée, et qu'elle ressemble plus parfois hein, à de la musique qu'à de la prose.
Question a entraîné une note qui a enchaîné avec de la lecture accompagnée de musique. Et me voilà complètement perdue dans le fil de mes pensées. D'ailleurs, en interviewant Lamine, j'ai eu un trou de mémoire mais monumental. Je me suis sentie vraiment idiote devant lui avec mon micro, mon cahier et rien à lui dire. Reprenons donc le fil de notre découverte. Tout à l'heure, Lamine m'a expliqué que pour lui, Claude McKay était encore d'actualité aujourd'hui. Je le relance donc sur le sujet.
Et du coup, oui, le fait de travailler aussi, donc de creuser, de m'approprier, de lui faire des réponses, puisque le spectacle qu'on propose, c'est Lettre à un poète disparu. C'est-à-dire qu'on n'a pas embaumé Claude McKay dans son époque, on a choisi de faire résonner sa parole aujourd'hui. Il nous parle de Marseille d'il y a 100 ans, et moi je lui parle en réponse du Marseille d'aujourd'hui. Et bon voilà, c'est devenu une présence très forte. Et d'ailleurs, quand on est sur scène, j'ai souvent la sensation qu'il est là.
Avez-vous remarqué la façon dont Lamine parle de Claude McKay ? Il parle d'un copain, d'une présence proche, de quelqu'un qui est là, pas loin. Lors de la table ronde, il dira même « Je me suis assis un jour dans un bar. J'ai payé une bière à McKay. J'avais mon calepin à la main et comme je ne pouvais pas lui parler, je lui ai écrit. » Mais comment écrire à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré ? Je lui demande de me parler de ce travail d'écriture un peu particulier.
Eh ben, ça a été un, comment dire, comme s'il avait levé un petit verrou là, à partir de ce que j'avais lu de lui. Il y a beaucoup de textes qui sont sortis, beaucoup plus que ce qu'on utilise sur scène. Et ça a même donné le début d'une matière pour un autre spectacle sur lequel je travaille et qui vient de sortir, qui s'appelle Français, et qui lui est plus sur justement la dimension de le passé colonial de la France. Et comme moi-même je suis descendant d'indigènes, c'est donc ça, c'est une façon aussi de raconter mon histoire différemment que de la façon dont on peut le raconter dans les livres d'histoire. Donc il a été une source d'inspiration vraiment parce que c'est un auteur qui ne se met pas entre nous et le monde, qui n'impose pas sa vision du monde. Et c'est un auteur qui est très proche du documentaire quelque part. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a des vraies tranches de vie, on a des personnages qui sont des vrais personnages et qu'il n'a pas touché une virgule de ce qu'il a pu capter d'eux.
Un point important que je retiens de mes discussions avec Lamine, Mathieu et Renaud, c'est que Maquet est un observateur privilégié de l'époque dans laquelle il vivait. Les deux sont reliés, Maquet et le XXe siècle. C'est une richesse folle pour nous parce que ça nous ouvre une fenêtre vers un monde qu'on ne connaît plus. Mais en même temps, c'est un sacré défi pour les artistes. Comment retranscrire ce contexte, cette époque si particulière dans les œuvres d'aujourd'hui ?
On la retranscrit par la datation de certains de ces poèmes. On fait un spectacle finalement qui est chronologique par rapport à son parcours, à son vagabondage dans le monde, donc on le suit au travers diverses étapes. Il naît à Jamaïque, ensuite il va étudier aux États-Unis, puis il part vagabonder dans le monde jusqu'à arriver à Marseille. Là on s'attarde un peu plus sur Marseille quand même. Et on a utilisé, Mathieu Verdeil est allé récolter beaucoup d'images d'archives qui sont diffusées. Et donc on plonge dans ce... Bon, alors c'est pas diffusé sur un grand écran, c'est diffusé sur des cadres suspendus en l'air, donc ça fait comme des fenêtres sur le passé.
Pour clôturer ma discussion avec Lamy, j'avais envie de parler de la musique avec lui. La musique, c'est hyper important dans l'œuvre de Claude Maquet. Et Lamy, il est un musicien. Je voulais donc avoir son avis sur la question.
Moi, je voulais pas... comme je l'ai dit, je ne voulais pas embaumer Maquet dans son époque. Je n'avais pas forcément envie de jouer la musique de cette époque. Je me suis entouré de musiciens qui sont plutôt sur du jazz, je sais pas, moderne, contemporain, et qui supportent bien la puissance de ses écrits.
On ne tue pas les poètes, on les ignore, dira Jim Harrison, grand écrivain racontant les espaces de l'Ouest américain, avec précision, poésie et justesse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Claude Maquet et son héritage sont loin d'être ignorés. Au contraire, sa vie et son œuvre inspirent de multiples projets, dont le documentaire de Mathieu Verdeil, Maquet, d'Harlem à Marseille. Je demande à Mathieu de m'expliquer l'origine de ce projet.
Moi, j'ai découvert Claude Maquet il y a plus de 15 ans, en 2006, en travaillant avec un musicien à Marseille, Moussuté, de Massilia Sound System. Et dès lors, en fait, il s'agissait de faire un clip, parce que Moussuté était très fortement inspiré par banjo, et donc de faire un clip sur banjo. Et tout de suite, en lisant le livre, puis en lisant l'autobiographie, les deux étant deux livres extraordinaires qui m'ont vraiment retourné le cerveau, j'ai eu tout de suite envie de faire un film. Et pendant une quinzaine d'années, j'ai tourné ça dans tous les sens. Je n'ai pas réussi à convaincre de producteurs, de diffuseurs. Et j'ai toujours gardé cette envie en tête et j'ai accumulé des documents, j'ai tourné des images, j'ai suivi tous les projets qui se faisaient, j'ai fait des petites vidéos. Et au bout d'une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse du consulat des États-Unis. Et j'ai enfin pu faire le film que je désirais faire depuis très longtemps. Et il se trouve que, bonne concordance des temps, Renaud et les éditions Hélotropisme sortaient simultanément Romancier de Marseille. Donc voilà, c'était un très bon alignement d'étoiles pour faire émerger Maquet. Voilà, donc ce film, c'est vraiment le fruit d'un long désir et d'un accouchement qui a duré, une maturation qui a duré très longtemps. Mais finalement, je suis tellement heureux parce que je ne regrette pas du tout d'avoir tenu bon, parce qu'au final, ces livres et ce film ont boule de neige, c'est-à-dire ont donné naissance aussi à d'autres projets artistiques qui sont... à l'œuvre en ce moment. On a un collectif urbain qui s'appelle Collectif Quai, qui transmet aussi la philosophie de Maquet dans l'espace urbain et auprès de différents publics. Et puis des projets universitaires, des projets d'édition. Voilà. Et tout ça découle... Le film est aussi un peu un moteur de tout ça. Il a été la première graine, on va dire, de cet arbre très vaste qui est en train de pousser. Et donc, je suis vraiment très, très heureux d'avoir pu le faire.
Vous pouvez retrouver l'arbre vaste des projets autour de la vie et l'œuvre de Claude Maquet sur le site internet Maquet, 100 ans après. À la fin de l'interview, Mathieu m'a même donné accès à l'espace pro de ce site pour que je puisse finaliser et approfondir mon reportage. Un grand merci à lui. En préparant cette rencontre, j'avais envie d'évoquer, plus particulièrement avec Mathieu, le rôle de l'image pour rendre compte de l'époque et du contexte dans lequel vivait Claude Maquet. Je lui pose donc la question sur ce sujet-là.
Le documentaire se veut vraiment à l'image de Claude Maquet dans son foisonnement et aussi dans le fait que Claude Maquet lui-même est un avant-garde et qu'il traverse et qu'il rencontre toutes les avant-gardes de son époque, qu'elles soient artistiques ou politiques.
Petite pause. À partir de ce moment-là, Mathieu va revenir sur le parcours de vagabond de Claude Maquet, qui passe de Londres en Russie, puis au Maroc et Paris. Lors de ses voyages, il rencontre à la fois des courants politiques comme le marxisme ou les suffragettes, mais aussi des artistes. Il fera partie de la Renaissance d'Harlem, il rencontrera Aimé Césaire et bien d'autres. C'est d'ailleurs à Paris, lors d'une pause nue pour l'un de ses artistes, dans des appartements mal chauffés, qu'il tombera malade et décidera d'aller à Marseille. Au plus j'en apprends sur la vie de Maquet, au plus il y a encore mille et une anecdotes. Mais j'avais aussi envie de parler de Mathieu et de son œuvre à lui.
Alors c'est un film qui est nourri d'énormément d'archives, c'est vraiment très 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 riche. Et c'est pour ça que finalement ce temps de 15 ans que j'ai mis à pouvoir faire ce film, il m'a aussi servi à avoir le temps de fréquenter plein d'archives, de lire des livres et de récupérer des images et de savoir où elles se situaient. C'est un travail étroit avec les archives locales, hein, municipales, départementales, etc. C'est aussi la chance de pouvoir... creuser dans les archives des universités américaines parce que, par chance, ces archives-là sont numérisées et disponibles, accessibles gratuitement. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et après, c'est à travers les catalogues d'art. Hein. Il y avait une exposition qui s'appelle le modèle noir, par exemple, à Paris, il y a quelques années. Et puis, surtout, une autre exposition qui était au musée du Quai Branly qui s'appelait La ligne de couleur, Color Line, très intéressante aussi, qui mettait un peu en avant la Harlem Renaissance. Puis moi, je suis un grand fan du constructivisme. Et donc, voilà, le cinéma de Dziga Vertov ou les œuvres de Rodchenko ou le cinéma de Laszlo Molinage, un artiste hongrois qui est venu filmer à Marseille en 1927. Donc, c'était très, très riche. Et l'idée, c'était de que tout ça se mélange, aussi bien avec des films de fiction aussi qui donnent un peu des scènes qui permettent de mettre en scène, voilà, des scènes qui correspondent à Banjo, entre autres. Donc, rendre vivant les atmosphères des romans et de l'autobiographie et créer une œuvre qui soit à la fois impressionniste, expressionniste, c'est-à-dire pas réaliste, c'est pas un documentaire, c'est quelque chose qui crée des sensations et des ambiances. Et sans oublier, bien sûr, la partie musicale, parce que c'est un film qui est très musical, à l'image de Banjo. Et tout le film est porté par une jam session, avec des musiciens marseillais qui se rencontrent comme les personnages de Banjo. Et aussi, on fait entendre toutes les œuvres qui sont dans Banjo. Donc, c'est le film est vraiment musical, porté par la musique, et il nous informe sur la musique de l'époque.
Si je comprends bien ce que me dit Mathieu, son film est à la fois sur la vie de Maquet, mais avec un zoom sur sa vie à Marseille et sur son ouvrage « Banjo ». Je lui demande plus de précisions sur ce sujet.
Le film est à l'image de Banjo, il met en avant Marseille beaucoup, mais Marseille comme point d'entrée dans le film, comme porte d'entrée, et aussi comme endroit où on peut exprimer un certain nombre de questions politiques que Mackay développe. Mais le film voilà, et retrace aussi toute la vie de Mackay. Alors c'est très compliqué, dans un film d'une heure vingt, de raconter tout ça. Raison pour laquelle peut-être, en tout cas à l'heure actuelle, je réalise un deuxième film sur Claude Mackay pour la télévision, qui sortira sur France 5 l'année prochaine, qui permet de creuser encore d'autres volets de sa vie. On va aussi parler de la Côte d'Azur, où il joue dans un film de Rex Ingram au studio de la Victorine. Et on a là la seule archive où on voit Mackay vivant. Donc c'est extraordinaire. Il y a un plan de 5 secondes dans un film de fiction d'une superstar de Hollywood. Et puis c'est aussi là-bas qu'il côtoie Fitzgerald et Hemingway. C'est-à-dire qu'il dîne avec eux, il habite à côté d'eux. Mais il y a plein d'anecdotes. Hein. Au début, Fitzgerald le prend pour le cuisinier, en fait, parce qu'il est noir et qu'il doit faire la vaisselle. Alors qu'en fait, 2 ans après, il lui écrit en disant que son livre « Home to Harlem » est un des meilleurs livres de l'année. Tellement de choses nouvelles et on a trouvé avec Renaud, on fouille, on trouve des nouveaux documents, des échanges épistolaires et il y en a encore d'autres. Donc voilà, tous ces échanges, plus ce qu'il raconte de sa vie avec des clochards, on peut imaginer la richesse de pensée de ce personnage.
Mathieu complétera ce florilège d'anecdotes en expliquant que Claude Mackay était présent en Bretagne dans les années 20 lors de la grève des sardinières, qu'il retranscrira dans son livre « Dîner à Douarnenez ». Mais aussi, comment il était surveillé par Hoover et les services secrets américains, car il était soupçonné de faire de la propagande communiste. Pour continuer, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair sur Mackay en tant qu'écrivain. Je demande à Renaud de m'expliquer son œuvre.
Oui, bien sûr. Alors, je vais vous parler essentiellement de ce qui est traduit en français. Et puis, ensuite, on pourra rajouter des choses. Mais on peut trouver, donc, chez Héliotropisme, Romancé de Marseille, qui est son roman perdu, ou en tout cas qui n'était pas publié et qu'on a republié. Un sacré bout de chemin, qui est son autobiographie, l'autobiographie de ses premières années et qui s'achève avec ce voyage au Maroc en 1934. Il y a Dîner à Douarnenez qui est un petit récit, 2 petites nouvelles qui se passent à Douarnenez et à Marseille. On a évidemment Banjo, publié aux éditions de l'Olivier, qui est son grand roman, qui est en rupture avec la littérature coloniale, publié en 1928. On va trouver aussi dans des éditions françaises Retour à Harlem, chez l'édition Nada, qui a été publié il y a 2 ans, ainsi que Les brebis noires de Dieu, qui est un autre livre perdu et magiquement retrouvé il y a quelques années, qui a donc vu le jour en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus. Voilà. Et à tout ça, on pourrait ajouter d'autres livres comme Banana Bottom, qui est son grand roman jamaïcain, qui fera peut-être l'objet d'une retraduction, ça a été traduit dans les années 30. Il y a un livre de nouvelles qui s'appelle Ginger Town, qui est composé d'une douzaine de nouvelles, dont la moitié se passe à Harlem et l'autre en Jamaïque. Et puis, pour finir, il y a toute sa poésie, parce qu'on en parle très peu, mais Claude Mackay se considérait avant tout comme poète. Il commence par la poésie et il meurt en écrivant de la poésie. Et aujourd'hui, en dehors des quelques poèmes qui sont publiés dans Un sacré bout de chemin, on n'avait pas de corpus, on n'en a toujours pas. Donc il y aura sans doute des projets d'édition et de traduction de sa poésie qui est très riche, parce qu'elle va presque d'une poésie en langue jamaïcaine, en patois, en passant par une poésie éminemment politique qui essaie d'affirmer la revendication des Noirs américains face à ce racisme qui est endémique, qui est même d'une violence inouïe. Et puis, il y aura une poésie qui sera plus introspective, désenchantée presque, qui viendra après le communisme. Et il finira sa vie en écrivant des poèmes catholiques.
Le commerce, de tous les mots, c'était le plus magique. Sa sonorité, sa couleur, sa forme, sa puissance et sa grandeur. Triomphant de tous les obstacles naturels et humains, sublime, mais ayant cependant pour éternelle compagne l'obscénité. Marchant la main dans la main avec la putain, dans toutes les relations entre les nations et les individus, entre les petits peuples et les grands, les peuples modernes et les peuples primitifs, ces deux amants s'imposaient et prospéraient comme s'ils étaient inévitablement complémentaires. Ray se demandait s'il aurait pu en être autrement, s'il était fou de sa part d'imaginer le concours splendide des civilisations du passé, du présent et de l'avenir, indépendamment de ces deux créatures nées des appétits de l'homme. Car la civilisation était allée jusqu'au sein de ces peuples proches de la Terre. Elle les avait dépouillés de leur sol primitif, les avait déracinés, chargés de chaînes, déportés, transformés pour les faire travailler sous sa contrainte. Mais elle était incapable de tolérer leur présence dans ces mondes.
Quand Renaud m'a présenté l'œuvre de Maquet et m'a expliqué précédemment comment son écriture était si particulière, une question m'est venue en tête. Comment on traduit une écriture telle que celle de Claude Maquet ?
Je crois que c'est très difficile de répondre à cette question et en même temps, je pense que c'est une question très intéressante. Il n'y a pas vraiment de solution pour traduire cette langue et je dirais même ces langues dans le cas de Claude Maquet. Mais il y a plusieurs artifices visuels notamment qu'il emploie. Avec des élisions de la langue, là encore une musicalité de la langue orale qu'on peut traduire avec des tours syntaxiques. Mais c'est très compliqué parce que c'est une langue qui, même en anglais, n'existe pas de manière transcrite. Donc il faut l'inventer ou trouver des solutions dans la langue française. Je peux citer l'exemple du mot « because » que lui traduit comme « cause » et qu'en français, on pourrait traduire peut-être par « parce que de manière elliptique comme ça. Mais comment on l'a traduit, je crois que c'est le sujet de grands, grands débats. Moi, je ne suis pas traducteur de l'anglais, mais en tout cas, je m'y intéresse de près. Mais c'est évidemment un peu le nerf de la guerre, comment arriver à traduire ce qu'on a appelé le noir américain vernaculaire.
Il est bientôt temps pour moi de terminer cette émission. Avant de laisser Renaud et Mathieu, j'avais une dernière question à poser. Je dois avouer, j'hésite à le faire. Peur d'être hors sujet ou d'imposer un thème qui me tient à cœur au milieu de la conversation. Mais finalement, je me dis que si Claude Maquet est vraiment encore d'actualité, alors, il en a parlé. Briançon, ma ville, est un territoire d'exil, avec une frontière active et un important mouvement de solidarité et d'accueil. Quelle place cette notion de frontière, si prégnante à Briançon, a dans la vie et l'écriture de Claude Maquet ? Mathieu, commence à répondre à cette question.
Maquet, comme on l'a vu, c'est un vagabond. Donc lui, déjà, la notion de frontière, il la dépasse constamment puisqu'il passe d'un pays à l'autre. Et il ira même un jour, il se fait contrôler au Maroc. Et quelqu'un lui dit « Mais alors, vous êtes américain ?» Et il répond « Non, moi, je me considère comme apatride. » Et cette notion d'être apatride, c'est aussi le fait de pouvoir se sentir bien chez lui, que ce soit à Marseille, au Maroc, aux États-Unis, il se sent bien partout et je pense que pour lui, il éclate la notion de frontière. On sait que cette notion de frontière, c'est pas naturel. En plus, il est à une époque coloniale où les puissances européennes ont divisé l'Afrique à partir de fausses frontières qui veulent rien dire. Et puis lui-même, il est un sujet de la colonie de l'Empire britannique. Donc il est dans un monde où ces frontières, elles n'ont même pas de sens. Et lui, il les explose.
Renaud complétera par ses propos.
Évidemment, ce sont deux phénomènes qui peuvent être différents. On parle de deux époques différentes. Mais au-delà de l'éclatement des frontières que Maquet propose dans ses livres, je dirais que lui-même est né dans un espace de libre circulation des langues et des cultures, les Caraïbes, et qu'il a proposé en Europe une observation assez précise de la condition des populations noires qui, pour la plupart, en tout cas les populations qui venaient d'Afrique, étaient soumises à un code, le code de l'indigénat, qui faisait qu'on considérait ces hommes et ces femmes comme des citoyens, des citoyennes de seconde zone. Lui, plutôt que de se sentir abattu face à ça, parce qu'il sentait quand même le privilège d'être noir américain ici en Europe, il a préféré rendre compte et écrire sur ça pour refléter sciemment cette chose-là aux Européens et aux Noirs du monde entier. Et ça, pour moi, en tout cas comme éditeur, je trouve que c'est d'un courage presque infini de montrer à quel point ces populations noires étaient broyées dans la machine de la civilisation occidentale moderne. Et c'est quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui, a de l'actualité.
J'étais venue faire un reportage sur un spectacle et une conférence au théâtre du Briançonnais. Et j'ai rencontré Claude Maquet. À travers trois voix, trois regards, trois arts, Lame Indiane, Renaud Bouc et Mathieu Verdeil ont tracé le portrait de ce vagabond aventurier, écrivain, poète, qui est encore d'actualité. Les livres de Claude Maquet sont maintenant sur ma table de nuit et attendent que j'ai un peu de temps pour m'y plonger. J'espère vous avoir donné envie de le rencontrer, lui payer une bière ou un café en le lisant. Pour vous dire au revoir, je vous laisse avec les mots de Christiane Taubira, marraine du projet Maquet 100 ans après, qui nous complète le portrait de cet artiste. Il se repaît des bas-fonds, des marginaux, des laissés pour compte, des ivrognes, des bagarreurs, des prostituées. C'est ça sa compagnie privilégiée. Il fréquente quand même la bonne société. C'est un navigant. Il traverse les classes sociales, il traverse les cultures, il traverse les villes et les continents. Maquet. C'est un vagabond, c'est un marginal. Il est homosexuel, il raconte le jazz, mais celui des bas-fonds. Je ne l'installe pas dans les grands mouvements, mais on pourrait presque dire que c'est un mouvement à lui tout seul. Il crée une croisée de l'intersectionnel avant l'heure. Il décrit la résistance des gens, qui n'est pas une résistance doctrinale, une résistance du rire du quotidien, une résistance pour la survie du lendemain, la résistance de la camaraderie, la résistance de la torsion des langues, la résistance de l'expression musicale et artistique, la résistance d'une solidarité des bas-fonds.